Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je sais que vous en avez plein la bouche de Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain.
Beaucoup de frustration. En première mi-temps, on s'est fait cueillir à chaud.
C'est pas passé, mais il va falloir faire la même chose dimanche prochain.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, c'est l'After jusqu'à minuit sur RMC et sur After Foot TV, bien sûr, comme tous les soirs. L'After Premier Radio de France est là avec vous, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Avec Florent Gautreau. Florent, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, bonsoir.
Salut tout le monde.
L'événement ce soir dans l'After, c'est la présence dans quelques instants avec nous de Michel Gerlinger, le directeur général de l'Olympique Lyonnais. C'est intéressant d'avoir de parler de début de saison, parler du sportif, parler du financier, des perspectives à venir, revenir sur la galère de l'été.
Je pense qu'il a passé un été à parler que oseille en plus.
Voilà, on fera ça dans quelques instants ensemble. Ensuite, la Ligue 1, de retour demain. Je sais que certains sont soulagés.
Ah quand même, oui, c'est mieux là, après deux semaines. Là.
T'as l'impression que...
Ouais, tu nous as dit un soir que c'était super, là, maintenant l'équipe de France. Oui, enfin, je t'ai pas dit que c'était super, je t'ai dit qu'on s'était fait nettement moins chier que d'habitude. Oui, exactement, il y a eu mais pire. Là, pardon, mais aborder le week-end, tu vois, le petit week-end de Ligue 1, lundi, petite respiration, fait l'after, dans la foulée, le début de la Ligue des Champions, oui. Je trouve que c'est l'un des meilleurs moments de l'année. Je suis d'accord. Voilà. Après, il va y avoir bien sûr le mois d'avril-mai quand il y a les gros matchs, les machins et tout. Ouais. Mais l'un des meilleurs moments de l'année, à chaque fois, à la rentrée, tu sais, ça démarre un peu fort, et puis après, il y a un coup de mou, justement, avec la trêve. Et là, ça y est, on prend le virage de la vraie saison qui démarre. Là, c'est fantastique. Demain, tu vas voir l'OM remanié, le championnat
de ce week-end dans la foulée. Lâche pas tout de suite.
Ligue des champions.
On va y aller à Marseille tout à l'heure. On va se faire un mini tour de France. On va aller à Marseille, à Nantes, à Monaco, avec nos correspondants sur place pour prendre les news avant les matchs du week-end. Et puis, comme tous les jeudis, les de l'âme seront là avec l'actu du week-end, actu notamment anglaise et espagnole ce soir. 32-16 pour nous appeler, le numéro WhatsApp de l'After, vous le connaissez, 0-612-424-424. Vous pouvez nous envoyer des messages, j'ai des messages qui arrivent là, comme ça, pam, devant moi. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Pardon ?
Mais non, il veut dire que le message était là, pam, devant lui.
Voilà, pam.
Mais c'est pas un message de pam.
Qui avait envoyé un message.
Non, c'est pas Bam Bam qui est un modérateur.
Édouard G nous rejoint. Édouard G suit l'actualité de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, au quotidien. Et forcément, on lui a demandé.
Il est l'OL, c'est le plus ancien du club, là, désormais.
C'est vrai.
De loin.
Peut-être.
Alors, il y a quelques gars au progrès, je pense, qui ont plus d'ancienneté qu'Édouard.
Ouais, mais je crois que je dois être sur le podium.
Franchement, il est pas loin, Doudou. Je pense qu'il est vraiment.
Comment il s'appelle Christian Lagnier. Toujours là, Christian Lagnier.
Oui, Jean-François Gomez, exactement. Ils sont toujours là.
Ah ouais, donc c'est le podium,
ça fait
en fait.
Deux et ça fait
c'est le podium. Voilà.
Bon, le directeur général du club est avec nous et on est très content d'avoir Michel Gerlinger dans l'after. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. On va parler de tous les sujets du moment, mais d'abord, bilan sportif, parce que là, je pense que ce début en fanfare de l'Olympique Lyonnais, vous-même, peut-être, vous ne vous y attendiez pas.
Non, c'est vrai que c'est les premiers trois matchs, donc on ne peut pas faire un bilan pour l'instant, mais ça a très bien commencé, on est très très contents, on a baissé les investissements, donc normalement, tu n'as pas l'expectation que tu vas gagner tous les trois matchs.
Est-ce que après l'été, on va en parler dans un instant de l'été très difficile et de la façon dont vous avez redressé le club, est-ce que quand la saison a démarré, après tout ce qui s'était passé, vous avez eu peur en vous disant il y a une inconnue devant nous, on ne sait pas où on va, est-ce qu'on va jouer deuxième partie de tableau, première partie de tableau, est-ce que c'était un brouillard devant vous?
Non, pas vraiment, parce que on savait plus ou moins où on était point de vue masse salariale, budget. Donc c'était clair pour nous qu'on on est capable de jouer pour l'Europe, pour les premiers 6 ou 7 places. Donc nous, on s'est dit on va être à peu près là-bas. Ça a commencé mieux que ça, donc c'était pas vraiment une peur qu'on avait.
Vous avez donné une conférence de presse là il y a quelques heures maintenant en rappelant quelques chiffres. Il y a des chiffres qu'on peut redonner ce soir dans l'after parce que vous avez expliqué les pertes lyonnaises depuis le Covid et c'est assez vertigineux.
C'est vrai que c'est au moyen 100 millions d'euros l'année de pertes. Wow. Il faut pas oublier que dans ces pertes, c'était des périodes où il y avait de l'argent de CVC, il y avait la vente de la LDLC Arena, la vente des deux équipes féminines, donc c'était
100 millions,
on avait des recettes.
100 millions par an, hein.
Mmh, ouais. Par an.
100 millions par an, oui, c'est ça.
En et 120 sur les 6 premiers mois de l'année.
Pardon ?
Et 120, comme tu disais, sur les 6 premiers mois de 2025.
Exactement, oui.
Alors, c'est à Lyon, souvent, on a cherché les responsables de cette faillite financière. Si on dit que depuis le Covid, il y a 100 millions par an, ça veut quand même dire, et on va taper sur personne, mais ça veut quand même dire que ça fait des années que Lyon était mal géré, quand même. Au minimum, on peut dire ça.
Vous essayez de trouver un coupable déjà, mais...
Non, justement, j'ai pas voulu. Parce que le climat à Lyon, j'ai bien compris que ça servait plus à rien de chercher des coupables, parce que ces derniers temps, ça a été très compliqué. Mais au minimum, on peut quand même dire que les problèmes, ils traînent depuis longtemps.
Ça, c'est vrai. Et ça, c'est... Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une économie du football en France. Ça a commencé avec l'échec de Mediapro. Il y avait la pandémie qui était beaucoup plus grave pour les clubs de foot en France qu'en Allemagne. Et il y avait une situation, il y a toujours une situation où les droits télé ne servent pas pour générer des revenus pour les clubs. Donc ça, c'est une chose qui s'applique pour tous les clubs en France. Nous, en plus, on a construit un stade avec des crédits et c'est toujours une chose où tous doit bien passer. Et si tu construis un stade et après il y a une pandémie, ça tombe dans une situation assez difficile. Donc pour moi, c'est des circonstances qui n'étaient pas très favorables au club, mais aussi ça dépend de la situation en général en France, les droits télé.
Michel Gerlinger avec nous, DG de l'Olympique Lyonnais. Alors, on peut dire donc aujourd'hui, début septembre, que si Michel Kang et Arès n'avaient pas injecté de l'argent frais, Lyon n'aurait pas été sauvé. C'est eux qui ont sauvé l'OL.
Pour moi, c'est absolument ça, oui.
La situation est claire. Ouais.
D'ailleurs, à ce propos, ils ont injecté de l'argent. La contrepartie, vous avez bien insisté là-dessus, c'était de respecter ce que disait la DNCG et l'UEFA. Ça, pour vous, vous n'allez pas déroger à cela. Il n'y a pas de, j'irais même d'espoir pour de faux espoirs pour les supporters que vous puissiez déroger à certaines promesses parce que les résultats sont meilleurs, parce que peut-être.
Tu veux dire dépenser de l'argent à nouveau ?
Ouais.
C'est pas d'actualité, j'ai l'impression. Ouais.
Non, il y a toujours des risques en négatif, mais aussi des upsides sur le positif. Mmh. Et on a délivré un budget basé sur la qualification pour l'Europe, pas nécessairement pour la Ligue des Champions, mais pour l'Europe en général. Donc, si on fait bien, on a plus de revenus. Si on fait pire, on a moins de revenus. Donc c'est ça en fait.
Mais par exemple, prenons le cas Miko Tadze. À aucun moment vous vous êtes dit il y a une possibilité de le garder ?
Malheureusement pas, non.
C'était impossible et vous ne vouliez pas changer la projection pour essayer de garder.
Mais je crois qu'ils étaient contraints par DNCG et UEFA, ils ne pouvaient pas, même si Michel Kang avait voulu mettre de l'argent, c'était pas permis.
Il y a quand même autre chose, c'est Fofana ou Miko Tadze, on va y revenir. Quand même.
Et est-ce que ce qui s'est passé cet été sur le mercato, pour que les supporters lyonnais se préparent, ça va être le plus difficile ? Est-ce que le plus dur est passé ? Parce qu'il y a eu ces ventes importantes, on a parlé des joueurs, il y a eu le travail sur la masse salariale qui a diminué de moitié quasiment, donc c'est un travail de fond. Est-ce que pour les autres mercato, on peut avoir un peu plus d'optimisme.
Pour moi, le plus dur est passé, oui. Parce qu'on a dû réduire la masse salariale plus que 50%. Ça, c'est un exercice qui est très, très difficile. Pour moi, les années qui viennent, on doit toujours économiser de l'argent, mais pas autant. C'est vraiment un exercice singulier qu'on a fait cet été-là.
Parlons un peu du mercato, enfin revenons un peu sur le mercato.
Et l'épisode de la fin du mercato qui a stressé tous les supporters de l'OL.
Florent parlait de Miko Tadze. Nous, l'interprétation qu'on a eue, c'est qu'en fait, finalement, vous vous êtes retrouvé coincé parce que Fofana ne voulait pas partir. Et au départ, c'était sur le Fofana que vous vouliez vendre, qui avait une plus grosse valeur.
Bon, le problème pour nous, c'était qu'il fallait générer de la trésorerie pour la saison 25-26. Et là, il faut générer des revenus à peu près de ces montants qui sont les valeurs des joueurs comme Malik Fofana, comme Georges Mikotat. Donc, si on génère les revenus dans les extrasports, on n'a pas besoin de vendre du tout. Mais trouver un sponsorship ou un investisseur qui nous donne 30, 40, 50 millions pour la saison 25-26, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que vendre un des joueurs. Donc là, il fallait
faire... Et comment s'est fait l'arbitrage entre les deux ? C'est ça la question, parce que pour certains... C'est la bonne version de l'histoire, c'est de dire sportivement, on est meilleur avec Fofana, on peut plus facilement remplacer Mikotadze, donc vendons Mikotadze. Ou c'est parce qu'effectivement, comme le disait Gilbert, simplement parce que Fofana n'a pas voulu partir.
Ouais, on a parlé avec les deux joueurs. Michel aussi, il a parlé avec les joueurs. Et pour Michel, c'était très important de savoir ce qu'eux, ils pensent. Et Malik, il nous a expliqué pourquoi lui, son agent, sa famille, ils ont décidé d'avoir un projet sportif très très clair. Et là, à la fin du mercato, on savait que pour Malik, c'est vraiment un projet sportif de rester chez nous encore un an au moins.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand vous parlez de Michel, c'est Michel Kang. Hein.
Déjà, je dis merci pour son honnêteté parce qu'il répond à cette question qui, sur la fin du mercato, a beaucoup animé les débats avec des gens qui peut-être ne croyaient pas ce qu'on disait parce que c'était nos informations. Donc, je remercie le DG de l'OL déjà de dire les choses clairement et d'être honnête sur cette question. Ils ont écouté les joueurs et Fofana n'a pas voulu partir. C'est Mikotadze qui est parti.
Edouard, à ce stade, tu veux rajouter quelque chose ou?
Non, c'est juste pour préciser, Michael, tu as parlé en conférence de presse du côté où vous êtes vraiment sous l'emprise, j'allais dire, le regard de l'UEFA qui fait des reportings réguliers. Vous devez justement dire où vous en êtes à chaque moment. Et ça, Mathieu Louis-Jean, le directeur technique, l'a dit, c'est la première fois qu'il faisait un mercato avec un directeur financier ou toi pas loin, quoi.
Ah, c'est ça, oui. C'était une équipe de 4-5 personnes. Il y avait bien sûr Michel Kang qui a supervisé tout. Il y avait aussi le directeur financier Jérémy Aoust qui nous a aidé avec la DNCG et un contact régulièrement avec Cécile Huette de la DNCG. Et chaque transaction était vérifiée par la DNCG, mais aussi avec l'UEFA, on avait des contacts réguliers pour compenser la liste A de l'UEFA.
Oui, parce qu'il faut bien... Il y a la DNCG d'un côté, en France, et il y a l'UEFA. Tu peux expliquer un petit peu en deux mots comment ça fonctionne, ce regard, ce contrôle de l'UEFA?
Oui, c'est différent que la DNCG. La DNCG regarde la trésorerie. Est-ce qu'on a assez de trésorerie pour terminer la saison positivement? Là, l'UEFA... C'est plutôt le concept de fair play financier. Donc, il faut être rentable. Il faut avoir une PNL positive, ce qui est très difficile si tu perds plus que 100 millions d'euros de l'année. C'est pour ça il faut des revenus du club lui-même. Injecter l'argent, ça aide la trésorerie. Donc, ça peut marcher avec la DNCG, mais ça marche pas avec l'UEFA.
Il y a un reproche, puisqu'on parlait du dossier Mikotadze et Fofana, il y a un reproche qui a pu vous être fait sur RMC, vous allez pouvoir donner votre version et répondre, c'est qu'on a eu l'impression que vous avez travaillé plus sur un départ de Fofana pendant longtemps et qu'à un moment vous avez acté en fin de mercato que c'était pas possible et donc vous avez activé le départ de Mikotadze, mais sans forcément penser à un remplaçant pour Mikotadze alors que c'était une possibilité que vous auriez pu avoir en tête des semaines auparavant.
Il n'y a pas l'argent.
Non, mais après,
on peut faire des joueurs libres, on peut faire aussi des histoires comme ça.
Non, c'est clair. Non, il y a toujours des offres des clubs, donc on n'acte pas une vente ou une autre. On travaille sur le mercato avec beaucoup, beaucoup de clubs. C'est le réseau, le networking qu'on fait avec tous les clubs pour tous les joueurs. C'est pas l'un ou l'autre. C'est vrai qu'on a reçu très tôt déjà des offres pour Malik Fofana. Donc, il y avait des discussions avec des clubs. Mais là, c'était pas que on a à un moment dit il faut faire ça ou ça. C'était clair à la fin parce qu'on avait parlé avec les joueurs que c'est plutôt Georges mais pas Malik. Mais dans le recrutement, c'est pas que on appelle le directeur de recrutement, on lui dit ah finalement on va vendre quelqu'un d'autre et il faut chercher une position. Mais tous les recruteurs du monde professionnel, ils ont un shadow list avec tous les remplaçants et c'est clair qui est le cible. Donc c'est là, c'est juste que il faut attendre jusque c'est probable qu'il faut signer un joueur sur cette position avant qu'on lance les négociations et les discussions.
Et il y a toujours la possibilité de faire un joker, on pourrait y revenir.
On va y revenir dans quelques instants, il est 22h16, on se retrouve dans deux petites minutes avec Michel Gerlinger, DG de l'OL, pour parler de la suite maintenant, les perspectives à venir pour Lyon, évidemment supporter lyonnais, on vous attend également au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h19, l'after est là avec Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Florent Gautreau, Edouard G qui est avec nous et Michael Gerlinger. Je prononce comme ça parce qu'à l'époque on disait Michael Schumacher. Voilà.
Tu fais bien.
Tu maîtrises Michael, le germanique.
Directeur général de.
Flo a fait allemand première langue.
Pardon, moi j'ai fait de l'allemand à l'école primaire. Oui, en Alsace, à l'école primaire.
Ah, t'es obligé. Ouais, obligé en Alsace.
Un enfer. Ah,
d'accord. D'ailleurs, tu dis pas Alsace, tu dis Elsace.
Voilà. Exactement. Bon. Michel, allons-y sur finissons sur le mercato d'abord, parce que est-ce qu'au final vous êtes satisfait du mercato ou alors est-ce que vous êtes un peu frustré parce que tout le monde attendait un deuxième attaquant en fin de mercato qui n'est pas venu?
Non, c'est clair, je suis très content sauf le deadline day, oui. Il nous manque le numéro 9.
Oui, voilà, il manque un 9. Et alors, maintenant, vous pouvez prendre Jean-Louis l'a dit, on peut prendre un 9 libre à Lyon. Hein.
Voilà, est-ce que vous travaillez là-dessus ou même sur un joker, hein, quelqu'un qui est sous contrat ailleurs? Est-ce que vous avez repéré des choses? Il y a des noms qui circulent un peu partout. On a entendu Mopé qui n'est pas sur la Ligue des Champions à Marseille, la liste Ligue des Champions à Marseille. Est-ce que ça peut faire partie de vos cibles?
Là, Mathieu Louis-Jean et Benjamin Charrier, bien sûr qu'ils travaillent sur toutes les possibilités. Mais comme Mathieu a expliqué la semaine dernière, il faut avoir une conviction que c'est le bon choix. Parce que la dernière journée, on était là avec Paulo Fonseca, on a parlé d'un joueur qui était possible et il n'était pas convaincu. On s'est dit, si on n'a pas la conviction, on a un état d'esprit extraordinaire, on veut pas détruire ça. On veut laisser ouvert un peu de budget pour janvier, pour avoir la possibilité de réagir. Donc, s'il y a quelque chose où on a une conviction, oui, sinon, non.
Et vous avez gardé John Molébé aussi dans l'effectif.
En fait, si on comprend bien, c'est que ce qui se passe en ce moment, l'équilibre dans le vestiaire notamment et les bons résultats du début de saison, pour vous, c'est un équilibre, bon, comme pour toutes les équipes, fragile et que vous préférez attendre le mercato d'hiver.
Oui, si on a un risque de ne pas garder cet état d'esprit qu'on a, on fait rien jusqu'à janvier, parce que vraiment c'est ça qui en ce moment nous donne l'avantage. On a une équipe, des joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie de rentrer sur la pelouse pour gagner, et ne pas pour ne pas perdre. Et c'est ce qu'on veut.
Vous pensez que les difficultés récentes ont quelque part un petit peu soudé l'équipe collectivement? Ça lui a donné une force en fait?
Peut-être ça, oui. Si tu reviens d'une situation de fin juin où tout le monde a cru c'est la fin du monde pour nous et oui, c'est terrible, et tu reviens et tu vois que ça marche, que tout le monde a envie, que tout le monde travaille ensemble, ça te donne de l'énergie. On a beaucoup beaucoup d'énergie en ce moment.
Vous venez d'arriver au club, donc vous regardez la situation. Je reviens un petit peu aux histoires financières. Vous constatez les grandes difficultés, que l'argent perd que le club perd de l'argent depuis 4 ans. Et vous avez évoqué le stade. Moi, je me souviens que j'avais vu Jean-Michel Aulas dans un restaurant à Paris il y a plus de 10 ans. Maintenant, le stade n'était pas terminé. Il était venu avec pas des maquettes, mais des dépliants. Enfin bon, il m'avait présenté le stade, regarde ce qu'on va faire. Je trouve, le projet était effectivement magnifique. Le stade, c'était tout beau. Ça devait faire beaucoup d'argent. Il devait y avoir des concerts. Il devait y avoir évidemment le foot. Il devait y avoir 1000 choses. Et ça devait être un tournant historique pour l'OL. 2017 inauguration, on est aujourd'hui en 2025, je n'arrive pas à comprendre si ce stade rapporte de l'argent à l'OL ou si ça coûte de l'argent à l'OL. Moi, le premier constat, c'est que c'est trop grand. Et je me demande si finalement il a été bien dimensionné, ce stade. Pour moi, il y a quelque part un échec dans ce stade.
Non, pour moi, c'est des dimensions qui sont raisonnables. On a un taux de remplissage qui est assez élevé. Donc, pour moi, c'était le problème de la pandémie. Si tu construis un stade avec beaucoup d'espace de hospitalité pour des conférences et tout ça, et tu n'as pas la possibilité de l'utiliser pour un an et demi, deux ans, ça tue le plan financier. Mmh. Donc c'est clair que c'était le mauvais moment pour le club d'avoir ce problème de pandémie. Il y a plusieurs clubs en Europe qui ont le même problème. C'est comme si tu ouvres un restaurant juste avant la pandémie et tu dois payer les intérêts, mais tu n'as pas la possibilité de l'utiliser.
D'accord. Je continue avec les affaires d'argent. Tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer la situation en France de façon plus globale, avec évidemment le point noir, c'est les droits télé. Ça fait très longtemps que nous on en parle ici. Encore une fois, vous venez d'arriver, vous découvrez ce champ de ruines. Deux de vos confrères, collègues, ont parlé vendredi dernier. C'était très important, c'est un événement. Franck McCourt s'est exprimé pour la première fois. Joseph Gourian, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il parlait. Beaucoup de présidents aujourd'hui ont envie de taper du poing sur la table pour dire que la situation doit changer. Ils pointent du doigt la défaillance de la Ligue de football professionnel. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Quel regard vous portez sur la situation de notre football d'un point de vue financier?
Pour nous, la priorité en ce moment, c'est s'occuper de l'OL. On a assez de choses à faire nous-mêmes. Là, la situation de la Ligue avec les droits de télé, bien sûr que ça doit s'améliorer. On a besoin des droits de télé normaux. Mais il y a beaucoup de gens qui ont plus d'expérience avec la vente des droits de télé en France que moi. C'est pour ça, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui se connaissent très bien et moi je me concentre en ce moment sur l'OL.
Si vous, Michel Gerlinger, vous concentrez sur l'OL et c'est compréhensible. Est-ce que Michel Kang, par exemple, c'est un des sujets dont elle pourrait s'emparer, comme l'a donc fait Franck McCourt en tant que propriétaire?
Parce que je crois savoir que Franck McCourt a échangé avec elle sur la situation.
Je suis pas au courant de ça, non.
Il y a quelque chose qui nous intrigue quand même, c'est que bon, vous avez passé près de 20 ans au Bayern. Vous étiez dans un championnat qui fonctionne, dans un club opulent, riche, et arrivé à l'OL là, avec cette situation financière et toutes les difficultés, ça a dû vous faire un choc quand même, non?
Un choc. Je savais que la situation à Lyon était compliquée quand je suis venu l'année dernière. Mon job à l'époque, c'était plutôt gérer le sportif aussi de Botafogo et de Molenbeek. Ça a changé maintenant. Maintenant, je travaille que pour l'OL, mais je connaissais les chiffres. Et c'est un challenge, c'est vrai. Mais oui, c'est comme ça. Hein. C'est pas le Bayern, c'est pas les mêmes ressources qu'on a à l'OL. C'est 6 fois moins que le Bayern de Munich. Donc, je suis très content qu'on a bien joué notre match amical à Munich. Je suis très fier de ça.
Michel Gerlinger, justement, vous avez évoqué là, à l'instant, Molenbeek et finalement la multipropriété. Est-ce que cet épisode-là n'est pas un épisode funeste dans l'histoire récente de l'OL? Et est-ce que John Textor n'a pas failli envoyer tout le monde dans le mur?
Là, tout ce qui se passe au-dessus de l'OL en ce moment, c'est des choses qui sont gérées par Michel Kang avec les actionnaires pour voir ce qui s'est passé. Nous, à l'OL, on avait des problèmes de trésorerie, comme j'avais expliqué à la conférence de presse. Là, la multipropriété n'était pas vraiment la seule raison pour avoir des problèmes. C'est pour ça que je voulais aussi montrer avec les chiffres les dernières années que c'est pas seulement un problème de multipropriété. Je crois toujours qu'un développement de joueurs est très très avantageux dans un système avec plusieurs clubs. Par contre, bien sûr, il faut gérer bien un multi-club Et là,
ah, là c'était au détriment de l'OL.
C'était. Ça dépend. On verra ce qu'ils disent les actionnaires Miguel. Là, il y avait de l'argent qui est venu de Botafogo à l'OL. Il y a de l'argent qui est parti de l'OL à Botafogo. Et nous, en ce moment, on attend tous les analystes, des actionnaires et des prêteurs de Eagle Football Holding.
Edouard, on n'a rien oublié ?
Non, je crois qu'on a à peu près fait le tour.
Est-ce que la gastronomie lyonnaise est meilleure que la gastronomie bavaroise ?
On mange très bien.
Justement,
elle
c'est pour ça.
Très similaire. C'est très similaire.
Merci beaucoup, Michel Gerlinger. Merci.
Merci à vous.
Merci et beaucoup. À très bientôt pour reparler de toutes ces questions. Et Edouard, tout ça se fait en toute transparence à l'OL, donc c'est intéressant. Il y a certains clubs qui parfois refusent de parler des questions financières. Alors l'OL, il y a la cotation en bourse.
En bourse,
à la transparence, mais enfin tout de même là, la situation est très claire. Même sous Textor, c'était parfois un peu plus
nébuleux.
Voilà,
nébuleux. Oui.
Alors qu'il prenait du temps pour expliquer.
Exactement. C'était un peu long, hein, Jean-Louis, tu te souviens. Là, c'est clair, concis, c'est des points presse d'une demi-heure avec des chiffres, comme l'a dit Michael ici, avec des choses très claires. Et c'est vrai qu'il y a une sérénité autour de tout ce club qui est quand même désormais nouvelle et qui est quand même assez sympa. Et vu que les supporters aussi se retrouvent dans cette nouvelle équipe, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un nouvel élan. En tout cas, c'est ce qu'on a vu au mois d'août.
Merci Edouard, bonne soirée.
À la prochaine.
Dans un instant, on conclura avec Luc, supporter lyonnais, et on parlera des matchs de Ligue 1 du week-end. On va aller à Marseille, on va aller à Nantes, on va aller prendre des nouvelles de Monaco, de Nice, également dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h34, Daniel Riolo est là, Jean-Louis Tour est là et Florent Vautreau est là. Dans quelques secondes, on va aller à Marseille, on va aller à Monaco, on va aller à Nantes. Mais d'abord, concluons sur Lyon avec Luc, qui est supporter lyonnais et qui est là au 32-16. Salut Luc.
Bonsoir tout le monde.
Salut Luc. Bon, Michel Gerlinger, tu vois, ça sent quand même le mec qui maîtrise le dossier. Rigueur allemande. Très bon français d'ailleurs.
On a le droit de dire ce genre de choses.
Bien sûr, on a le droit.
Rigueur allemand, on a le droit.
Bien sûr, on a le droit. Donc, moi, je suis désolé, quand t'as.
25, moi, je sais pas, moi.
Bah, ouais, moi, je te dis. Quand t'as passé 18 ans au Bayern, et ben, moi, je suis supporter lyonnais, ben, je dis, ça me donne confiance.
Donc, on a le droit de le dire. D'accord. Enfin, je crois qu'on pouvait plus essentialiser tous ces machins-là.
Je crois que Daniel a raison. Et qu'il est beaucoup plus déconstruit que Gilbert.
Je crois que Jean-Louis, il admet pas ça. C'est notre comité de surveillance.
Luc, tu t'admets, toi?
Dis Streng.
Personnellement, messieurs, je suis très content d'avoir une personne qui représente aussi bien la rigueur bavaroise.
Ouais, merci Luc.
Mais
donc la Bavière, c'est mieux que la rigueur.
On se demande si un personnage comme lui, mais aussi une personne comme Michel Kang et Michael Gerlinger, Gilbert dit Michel, mais moi je dis Michael, parce que ces deux personnes ont fait avec John Textor tellement c'est l'antipode sur le plan caractériel, sur le plan du travail. Enfin,
ça, c'est pas faux. T'as remarqué qu'on a tenté de lui amener le sujet, il a un peu éludé.
C'est dommage, j'aurais bien voulu lui poser des questions, mais aussi surtout lui féliciter, parce que en fait, j'aurais passé peut-être deux minutes à le féliciter, à le remercier énormément pour tout ce qu'il a fait pour le club. Parce que voyez-vous, moi, le soir de la première relégation, j'ai été très, très, très touché en tant que supporter. Je suis allé au stade parce que franchement, je pensais que le club allait mourir. Et en à peine deux semaines, Michael Gerlinger et Michel Kang ont réussi ce que John Textor n'a même pas essayé de faire en deux années. Donc franchement, je voulais le remercier, comme je voulais aussi remercier la grande participation de la communauté lyonnaise sur les réseaux, qui ont aussi mis en lumière toutes les saletés, les saloperies, excusez-moi de dire ce terme, les saloperies qu'a fait John Textor envers l'Olympique Lyonnais, comme Mika du 11 Lyonnais, Malekao, Lorenzo, bref, plein de monde, et j'en oublie beaucoup, qui ont servi et qui ont alerté, mais aussi Thomas Lacondémine, journaliste qui travaille des fois chez vous, qui ont fait un excellent travail. Donc je voulais le remercier personnellement pour tout ce qu'il a pu faire de son côté, à savoir sauver un club qui fête en plus cette année ses 75 ans. Donc ça aurait été un anniversaire.
Alors lui, il était à la manœuvre administrative, financière et tout, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout Arès et Michel Kang qui ont.
Oui, mais on pourrait toujours se trouver avec des incompétents qui viennent d'Arès. Comme il y a aussi une personne qu'on ne cite pas parce qu'elle est tout à fait silencieuse et elle travaille de manière très 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 cachée, enfin qui est cachée auprès des caméras, qui est Monsieur Malone. qui lui est l'envoyé d'Arès et qui lui, on va dire,
Roberto.
Contrôle l'aspect financier.
Bien sûr.
Non, pas Roberto, mais, mais voilà, quelqu'un qui, lui, pour le coup, a, est l'homme et l'oblige de, d'Arès et qui a
après, Arès, travaillé. C'est un actif d'Arès. Arès n'a aucun intérêt à ce que l'OL coule parce que ce serait une perte. Donc,
ça, on l'avait dit. Bon, voilà. On a beaucoup parlé de ça.
C'était toute la question. Est-ce qu'ils étaient prêts à perdre, in fine, un actif qui, en réalité, n'est pas grand-chose dans, le, dans, dans tout ce qu'ils ont? Ou est-ce qu'ils ont justement l'intérêt inverse de dire finalement ça aurait été une mauvaise image de laisser tomber un club historique comme l'Olympique Lyonnais qui encore une fois représente rien par rapport au capital antique qu'ils ont quoi.
Après ce qui est vrai et dans ce qui a transpiré aussi de l'interview de Michael Carlinger, mais on a vu aussi Michel Kang en tribune, c'est que cette nouvelle équipe a quelque part peut on va dire écrire une histoire autour du sauvetage. Et les supporters ont eu tellement peur que, effectivement, cette histoire, elle
dans
se
le
raconte.
Foot, ce genre d'histoire, ça.
Ouais, ça galvanise. Ça et moi, je vois qu'effectivement, sur le terrain, c'est vrai que les joueurs ont une attitude très première ligue. C'est-à-dire que je vois de l'engagement, de la joie, des encouragements. Il y a un truc un peu particulier. On a bien senti sur l'histoire de la recrue ou du mercato qu'ils ne veulent pas casser une sorte d'équilibre qui est en train de se créer dans le vestiaire. Donc, il y a un truc qui s'est passé. C'est-à-dire que d'une situation catastrophique, on a réussi à éventuellement revoir la lumière. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que ça se voit vraiment beaucoup sur le terrain et que, effectivement, en dehors de Michel Gerlinger, je pense quand même que Michel Kang était capital, fondamental, parce que l'injection de cash n'était pas une évidence quand même. À un moment donné, on avait ce doute-là.
Je remercie Luc au 32-16. Voilà pour l'Olympique Lyonnais qui d'ailleurs joue dimanche soir à Rennes.
Exactement.
Tu seras, Jean-Louis ?
Bien sûr.
Rennes-Lyon.
Bah, intéressant, mais c'est ça qui est intéressant.
Peut-être aussi,
j'y serai.
Ah, mais très bien. Je te réserve la place juste derrière. Je sais très bien où tu seras.
Absolument.
On se retrouvera.
À ta place.
Il y aura petit four à champagne.
Non, pas du tout. On se retrouvera au galette de saucisse.
Alors, je vais même dire une anecdote.
Vous mangez ce truc, c'est
Jean-Louis. Non, le galette de saucisse, pas forcément, mais j'avais rapporté des desserts.
Oui.
Parce qu'ils étaient en train de travailler, que j'avais un peu de temps. Ah. Jean-Louis et Jeannot à l'époque,
oui.
Qui les avaient engloutis, je ne dis pas qui. Et c'était d'ailleurs, il y avait, c'était très chocolaté.
Non mais moi j'avais pas touché, je te le dis. Moi les desserts, ça tombe toujours à la mi-temps et j'ai toujours la mi-temps à tenir à l'antenne, donc je peux pas manger de dessert.
J'avais apporté en tout cas.
Mais bravo, c'est gentil.
Donc on sait qu'ils les ont engloutis du coup.
Non, je ne sais pas si Jeannot les a mangés.
Écoute,
j'ai pas le souvenir de cette histoire.
Messieurs, attention, ils sont là, ils suivent leur club, donc ils ont eu 15 jours, sauf Florent, parce que Florent il a suivi l'équipe de France, ils ont eu 15 jours, un peu de répit là, mais là ça repart plus fort que jamais. On va aller à Marseille, Monaco et Nantes. Pierre-Yves Leroux est avec nous, lui qui suit Nantes au quotidien.
Bonsoir à tous, et c'est moi qui mangerai les desserts à la mi-temps dimanche.
Ah, tu seras aussi,
aussi.
Quelle équipe. Florent Germain qui rentre à Marseille est là également. Salut Florent.
Salut les amis. Salut à tous.
Ça tire un peu sur la corde là, Flo.
Ça va, écoute, on essaie de
petit
tenir.
Petit moteur.
Ça va.
Et Maxime Tilliette est là également, lui qui suit Nice et Monaco.
Salut l'after, salut, bonsoir
Maxime.
À tous.
Salut ouais. Maxime.
Ça, c'est la planque à la Côte d'Azur quand même, non?
C'est la planque.
Non?
Il n'y a pas de plan.
Déjà, Daniel, si tu avais eu le choix, comme ça, d'être correspondant dans une région, tu aurais choisi quoi?
Ah oui, c'est la bague jaunée.
Voilà.
Non, par contre, il n'y a pas de planque sur RMC, Gilbert. Il n'y a pas de planque sur RMC.
Je peux le chauffer, Maxime, quand même. Je peux quand même dire que c'est la planque.
Écoute, Maxime, moi, il m'arrive de le croiser souvent.
Il
n'y
a pas de tournoi de golf entre correspondants.
Il m'a l'air d'être très heureux. Tout va bien pour lui.
Parce que vous ne savez pas jouer.
Bon, de nul. Non, je ramène des infos aussi de la rédac, quand même, de temps en temps.
Bon, démarrons par l'OM. Parce que Florent, une dure semaine.
Vous êtes marrant, vous dites ça, mais vraiment, toi, demain. T'as le choix de prendre la place de tous, tu vas où?
Non mais oui, tu vas sur la Côte d'Azur.
Tu prends la place de Max.
Enfin, tu dis que sur la vie ou avec le foot aussi.
Non, avec le boulot. Tout demain, tu dois choisir. RMC t'envoie l'une des places se libère parce qu'ils peuvent plus ou quoi ou qu'est-ce. Tu dois prendre la place d'un des mecs.
Je vais en Corse. Ah non, mais il y a personne en Corse.
Bah non,
un des mecs, c'est la Côte d'Azur.
Bah oui. Ouais. T'as Nice, Monaco, et tu peux vivre dans des super endroits.
Tu peux aller à Marseille aussi donner des coups de
pied. Il y a grosses ambiances. Est-ce qu'il y a la Côte d'Azur? Il y a grosses ambiances.
Par quatre. Nettement moins bien.
Son salaire par quatre. Moi, j'avoue que j'hésite entre Marseille et la Côte d'Azur.
Bah, il y a pas photo en termes de.
Mais tu viendras à Marseille, Gilbert, tu le sais très bien, et tu prendrais un appartement. Je pense Corniche, Vallon des Eaux.
Magnifique.
Moi, je suis logé à Valère, donc je suis
pointe rouge.
Ou alors la Valentine pour être près du golf.
Voilà.
Il y a à nouveau le Sporting
le
et Cannes.
Ouais, moi je serais bien entre Toulon,
en
Toulon, Cannes, bon rencontre là-bas à Toulon.
Et tu nous racontes, toi, tu rêves de Lorient et de Brest.
Bah oui,
j'y suis. Donc tu me dis si tu veux aller ailleurs, la Bretagne.
Personne ne cite l'Atlantique.
Non. Bon, on le laisse, il est bien, on lui pique pas sa place.
Ouais, puis arrive, il a rien demandé à personne.
Non, je pense à Nicolas Pelorsi.
Ah, non, Luba, Bordeaux, ça n'existe plus, malheureusement.
Tu as parlé de quoi? Il n'a pas lu bébé?
Non, mais t'as dit pas de professionnel sur la vie.
Ah, si, non, mais je mêlais tout ensemble.
Ok.
Oh. Compliqué.
Personne ne veut la place de Gibo.
C'est Monaco qui suit.
Oui, c'est vrai que Jean Baumel, personne ne veut sa place.
Non, c'est vrai.
Il est tranquille. C'est marrant. Je ne comprends pas. Pourtant, il paraît que c'est sympa.
Oui, mais on.
Oui, mais non.
Parce que personne ne pourrait le faire mieux que Gibo. Donc, on n'ose même pas.
Moi, je ne sais pas faire la ligue.
Bon, du coup, on a perdu 4 minutes à dire n'importe quoi. Alors,
c'est la pub.
Bougez pas. On revient tout de suite avec les vraies infos. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h47, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Florent Gautreau sont là, plus Florent Germain donc à Marseille, Maxime Tillet à Nice et Pierre-Yves Leroux à Nantes. Hier, on a fait un petit débat, Flo, t'étais pas là, qui était le suivant. Est-ce que la saison de l'OM démarre là, ce week-end? Je rappelle qu'il y a enchaînement Lorient, Real Madrid, Paris Saint-Germain, donc c'est la semaine d'entrée là qui va faire mal, ou qui va faire du bien. Et puis surtout, il y a toutes les recrues qu'on va voir. C'est-à-dire que demain, je sais pas si t'as une idée précise de l'équipe, hier on a parlé de la défense, mais est-ce que Pachao est là? Qu'est-ce qui va se passer devant?
Zerbi, il a dit qu'il voulait mettre tous ceux qui étaient possibles, tous les nouveaux. Là.
C'est pour ça que je pose
tous les nouveaux, non, parce que Paichao, par exemple,
non, mais ceux qui peuvent,
est trop
ceux
juste
qui
pour débuter, voilà, exactement. Traoré, je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais Roberto De Zerbi semblait dire qu'il avait eu un petit pépin cette semaine, qui sera dans le groupe, mais pas à 100%, comme Emerson Palmieri. Donc ça nous enlève quelques joueurs qui, a priori, ne sont pas à 100%. Je pense que Naïef Aguerd et Benjamin Pavard vont débuter. Ça me paraît évident. Facundo Medina aussi, c'est la bonne nouvelle de la trêve internationale, il est revenu de blessure.
Allez, hop, 75% de défense.
Exactement, 75%, et on verra, et on peut ajouter le gardien, puisque Jeronimo Rulli, a priori, ne devrait pas débuter cette rencontre, parce que lui et Léo Balerdi ont joué dans la nuit de mardi à mercredi en Équateur, une défaite 1-0, et ils n'ont pas participé en entier à la séance du jour, ils sont rentrés assez tard, donc être lancé comme ça sans entraînement et surtout avec la perspective de la semaine qui arrive, enfin ça paraîtrait presque irresponsable, donc a priori Balerdi et Rulli sur le banc. Si on reste sur une défense à 4, et après j'explique pourquoi je dis si on reste sur une défense à 4, on devrait partir sur Medina et Murillo sur les côtés, qui a vécu une trêve un peu compliquée d'ailleurs, Amir Murillo, parce qu'ils ont eu des résultats difficiles, le Panama. Aguerd et Pavard en charnière centrale, Angel Gomez et Højbjerg devant la défense. Je pense que Nadir peut avoir encore une titularisation, même si Matto Railey plaît beaucoup au staff. Matto Railey, c'est un joueur qui vraiment a le profil pour jouer en numéro 10, assez élégant, altruiste, gaucher. On verra s'il peut être lancé d'entrée, mais sinon Nadir, Greenwood, Guiri va être titulaire a priori, puisque Aubameyang est revenu assez tard de son match avec le Gabon et il faut le préserver.
C'est l'occasion pour Guiri d'envoyer un message fort
et de rejouer en neuf, parce que après, hein, on nous a dit et redit, notamment Roberto De Zerbi, qu'il voulait en faire un avant-centre, donc c'est pas pour se démentir
au bout
de 3-4 matchs.
Bah oui.
Et donc Amine Gouiri en pointe. Et sur le côté gauche, je reconnais avoir une petite incertitude. Je pense que Robinho Vaz a un coup à jouer parce qu'il est en pleine bourre, il est insouciant, capable de jouer une bonne heure à fond et de céder sa place après. Sinon, il y a Timothy Weah qui peut faire l'affaire, ou alors Traoré s'il était à 100%. Et voilà, il y a un petit doute sur ce côté gauche. Et je disais, s'il y a une défense à 4, parce que Roberto De Zerbi, avouons-le, nous a mis un peu le doute. Moi, je commence à ne plus rien y comprendre avec ses annonces en défense, puisqu'on avait, semble-t-il, bien compris qu'il voulait absolument repartir sur une défense à 4 et que le recrutement serait fait en ce sens cette intersaison. Et là, il a laissé l'option comme ça dans l'air de revenir de temps en temps à une défense à 5, parce que le profil des défenseurs qui viennent d'arriver correspond
coup,
à une défense à 5.
Pour le coup, c'est pas faux, l'histoire.
C'est vrai, mais dans ce cas-là,
profils.
Ça veut dire qu'on a vraiment eu une intersaison et un mercato qui a été fait tellement dans l'urgence qu'on n'a pas respecté les principes annoncés il y a deux mois. Donc, moi, pour le moment, je demande à voir, mais il y a un petit doute par rapport à la défense, en tout cas dans les semaines qui viennent.
Bon, ça va être intéressant là, le match.
Alors, très intéressant.
Normalement, contre Lorient, c'est victoire obligatoire, parce que sinon, tu te fous quand même.
Ouais, sinon, tu te remets encore dans un climat d'anxiété, voire de crise, avant deux matchs très importants. Donc oui, il va y avoir du stress, parce qu'il y en a toujours à l'OM. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils se libèrent un petit peu de ça, si c'est possible, que tout le monde se calme un peu. Victoire, et on pense à la grosse semaine qui arrive.
Et maintenant, dossier Balerdi. Tout à l'heure, Génération After en a parlé. Est-ce qu'avec toutes ces arrivées en défense, et bon, Balerdi fait toujours débat, est-ce que Balerdi est condamné à plus ou moins long terme
fragilisé au minimum.
À être sur le banc de touche?
Il est mis en concurrence, ce qui est déjà très nouveau, parce que ça reste le capitaine. Alors aujourd'hui, Roberto De Zerbi a dit « c'est mon capitaine, il n'y a aucun doute ». Bon, déjà, rien que le fait de le dire, moi, je trouve ça... je le prends comme un signal. C'est-à-dire que si c'était si évident, il n'y a pas besoin de le déclarer. Donc, je suis peut-être parano, mais bon, je pense que si Roberto De Zerbi y réfléchit, c'est que voilà, peut-être que la question va se poser. De toute façon, si à un moment donné il ne joue pas, il faudra bien donner le brassard à quelqu'un d'autre. Et la nouveauté, c'est ça, c'est qu'il a affirmé que quand il devra être sur le banc, il sera sur le banc. Et la nouveauté, c'est qu'il y a une vraie concurrence. Aguerd, Pavard, Medina,
en fait.
Il y a des joueurs qui ont un profil vraiment pour lui prendre sa place s'il ne réagit pas. Parce que Balerdi, pour le moment, n'est pas dans son assiette.
Mais Flo, la vérité, c'est que même pour un coach, hein, peu importe quel coach, la situation dans laquelle on s'est retrouvé, on se retrouve aujourd'hui, je parle au présent, à l'OM, avec Balerdi qui est annoncé, donc c'est le capitaine, il redémarre comme capitaine, et tu vas prendre Pavard et Aguerd, qui sont deux joueurs plus mûrs, plus confirmés, avec un meilleur CV. Mais quel est le message que t'envoies? Évidemment que l'autre, il est fragilisé. Et en termes de gestion d'effectifs, de gestion humaine pour un coach, mettre à ce point en concurrence, mais c'est plus que de la concurrence, parce que tu le fais partir derrière, ton capitaine. Ben moi, je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué. On parle souvent de la liberté d'un coach, de ce que doit faire le coach et tout. Il y a des façons aussi de mettre un coach dans une situation plus ou moins confortable. Et là, les circonstances ont fait que, parce que Mercato à la fin, parce que l'OM n'a pas les moyens d'autres clubs pour recruter à des moments différents, en toute fin de Mercato, tu fais arriver deux défenseurs centraux qui sont sur le papier meilleurs que ton capitaine. Waouh!
Ouais, mais c'est aussi, gérer ça quand même. C'est aussi ce qui est intéressant dans cet OM qui, à mon avis, est la clé de la saison à venir, c'est la relation entre De Zerbi et ses dirigeants, au résumé, c'est entre Benatia et De Zerbi. Parce que moi, je pense que Benatia, il fait le nécessaire parce qu'il pense aussi sans doute aux limites de Balerdi. Moi, le truc le plus surprenant et le truc un peu emballé, ça a été de mettre le capitana à Balerdi. C'est-à-dire que, ok, ça peut lui donner de la force et il a la mentalité, etc. Mais tu vois, Hochberg au milieu, ça m'aurait paru plus.
Mais quand ils le font, il y a un projet. Parce que Balerdi a deux, trois
Mais Balerdi, on connaît Balerdi. C'est-à-dire que Balerdi a toujours été, et même dans ses bonnes périodes, ça lui arrive aussi, soit un pétage de plomb, soit une boulette, soit un truc. C'est comme ça.
Je sais pas que je suis en désaccord avec toi, je cherche à t'expliquer pourquoi ils avaient fait donner de la confiance.
J'ai bien compris.
Parce que c'est un défenseur qui d'un coup.
Mais là, tu vas devoir lui enlever le brassard si tu veux.
Avait montré quelques progrès et c'était une façon de le conforter, de lui donner des responsabilités. Je dis pas que c'était forcément une bonne idée, mais là, d'avoir pris ces deux défenseurs-là, de démarrer là maintenant, demain en plus, il va pas jouer. Semaine de Ligue des Champions, deux énormes matchs qui arrivent, Real et PSG.
Si tu repasses à une défense à 3, il peut avoir sa place.
Oui, mais là encore, tu repasses à une défense à 3, Flo l'a dit.
Non, mais t'as pas de certitude non plus sur le niveau d'Aguerd.
À tous les propos qui avaient été tenus.
Ça, moi, je suis un peu moins d'accord quand même, parce que pour moi, c'est une fausse défense à 4, ce que fait l'OM. Ils sont déjà à 3, il y en a un qui monte à chaque fois. Soit c'est Ouéa, soit c'est Murillo, donc ils sont déjà plus ou moins à 3. C'est
juste l'installer un peu plus. Pas également Medina, dont tu veux pas te priver parce que caractère, parce que ça
Moi, je pense qu'il faut pas l'enterrer trop vite, Balerdi. Par contre, là où je suis d'accord, c'est sur le capitana. Je pense qu'il y a des joueurs, le brassard les galvanise. Lui, au contraire, dans sa gestion des émotions, c'est déjà pas irréprochable.
Tu lui rajoutes ça. Ça devait être le contraire.
Oui, mais avec De Zerbi en plus, qui met une pression de dingue à tout le monde sur l'émotion et tout, lui, je pense que ça a eu un mauvais effet.
En fait, ce qui est dingue, et c'est pour ça que je veux revenir à la saison dernière et voir l'évolution. Moi, de voir qu'il y a ces recrues là, je trouve que c'est que du positif pour l'OM. C'est énorme. Pavard, moi, je trouve ça top.
Mais il faut les gérer, les recrues. Le management, c'est compliqué.
Oui, mais c'est aussi gérer finalement arriver à changer le paradigme de cette effervescence permanente. C'est-à-dire que de mettre le capitana à Balerdi, c'est déjà rajouter aussi de l'effervescence à l'effervescence. Je pense que l'idée de Zerbi était sans doute louable, mais tu dois avoir aussi, dans ce cas-là, dans le club, une discussion pour dire, attends, Balerdi, autant qu'il se concentre sur son rôle de défenseur, on sait qu'il est capable aussi parfois de se trouer. Mettons-le à quelqu'un qui a un petit peu plus de calme et de pondération.
Évidemment. Après, c'est un vrai lien dans le vestiaire, Balerdi. Il ne faut pas le lui enlever.
Mais ça n'empêchera pas ça.
Non, il ne faut pas le lui enlever. Il parle beaucoup de langues. Il est bien avec tout le monde. Il a quand même compris aussi Marseille. Je pense qu'il est très attaché à ce club. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre constat. C'est que je pense qu'effectivement, ça lui met un poids. Et qu'aujourd'hui, si ça ne vexait pas Balerdi, peut-être que le staff ou Roberto De Zerbi donnerait facilement le brassard à Højbjerg. On verra.
Mais si Balerdi est sur le banc, je pense que ça va être le Danois. Ils sont arrivés dans leur tête pour pas être titulaire. Donc moi, je vois pas. À moins que.
Après, t'as beaucoup de matchs, t'as des joueurs qui sont suspendus souvent. Medina, il prend souvent un match de suspension. Balerdi aussi, d'ailleurs.
Qu'il aura pas de temps de jeu. Mais
avec
entre
la Ligue des Champions et tout.
Entre être capitaine titulaire et remplaçant, parce que ça semble être son destin, puisque les deux qui sont arrivés sont meilleurs que lui.
Et après, une parenthèse, Jean-Louis, entre la différence entre vraiment une vraie défense à 5 et celle à 4 du moment, c'est que s'il y avait une vraie défense à 5 un peu dans le schéma de ce qu'on a vu la saison passée, ça voudrait dire deux pistons.
Oui.
Et en fait, l'objectif de l'OM, c'est quand même très clairement de mettre Greenwood à droite et Paixão à gauche en deux dynamiteurs. Et en fait, tu peux pas te marcher dessus avec derrière deux pistons. C'est pour ça que moi, honnêtement, je ne comprendrais pas un passage à 5, et pourtant, le profil des défenseurs arrivés me fait dire que pourquoi pas, et deux, aujourd'hui, Roberto De Zerbi a un peu ouvert la porte.
Flo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Demain soir, le match avec toi, bien évidemment, dans un instant. Nantes, Nice, Monaco au programme. Sur WhatsApp, Jeff nous écrit suite à notre discussion tout à l'heure.
Jeff Perez
Jeff. Jeff de Menton. Il nous dit, vous le savez très bien, les gars, il faut venir à Menton, la plus belle ville de France, 20 minutes de Monaco, 30 minutes de San Remo, 315 jours de soleil par an et les meilleurs restaurants du monde.
Il a mis San Remo pour se mettre Daniel dans la poche.
Ça s'appelle peut-être Jeff Sarkozy.
Les meilleurs restos, c'est pas vrai. Là, il délire complètement. S'il passe la frontière, il verra ce que c'est des bons restos. Ça tombe bien, elle est juste à côté. Mais Menton, non, les restos, faut qu'ils se calment.
Et bam! Allez, tout de suite dans l'after.
Je connais la zone par cœur.
Le Mirazur.
Il me semblait que Robinho Vaz était parti à Soissons. Mais
meilleur restaurant du monde.
Celle-là, je l'avais pas vu venir.
Non.
T'as vu quand il fronce ses sourcils, là, genre, je suis content de ma blague.
Moi, je trouve qu'il n'y en a pas eu beaucoup.
Ce soir, temps.
Il a tout donné chez Cazard.
Il cherche un peu.
Quand il est resté, là, c'était terrible.
Ouais. Il y avait à boire et à manger, d'ailleurs.
Ah, ouais. Ah oui, il y avait à boire et manger, exactement.
Allez, à tout de suite dans l'after.
C'est le principe.
RMC, l'after foot.